بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا من نور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Mais بعد, salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous poursuivons, alhamdoulilah wa ta'ala, donc notre intervention autour des actes d'adoration et des secrets autour des actes d'adoration. Et donc nous avions commencé donc une première série, ou plutôt un premier dars autour des secrets du jeûne. Et ensuite nous avons poursuivi sur les secrets de l'invocation. Donc nous sommes à la troisième intervention au niveau des secrets de l'invocation. Donc la semaine dernière, à titre de rappel très rapide, donc on avait évoqué donc l'importance de l'invocation et en particulier les éléments à avoir à l'esprit lorsqu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que celui qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala peut se poser la question de l'exaucement. Est-ce que son invocation est exaucée ou pas? Et pour quelle raison elle n'est pas exaucée? Et donc on avait expliqué plusieurs choses, parmi lesquelles le fait de tout le temps avoir une bonne opinion de son Seigneur, husnul dhann billah, donc tout le temps avoir une bonne opinion de son Seigneur. On avait donné quelques exemples, donc le fameux hadith sur la mère qui allaitait son enfant et qui l'avait perdu. Donc je ne vais pas y revenir, je vais pas revenir dans le détail sur le hadith, mais le hadith expliquait que la mère était très miséricordieuse envers son enfant et Allah subhanahu wa ta'ala était beaucoup plus miséricordieux envers ses serviteurs que la mère envers son enfant. On avait également expliqué que l'invocation pouvait être exaucée de trois manières. Donc on avait expliqué que la première manière, c'est que l'invocation soit exaucée comme le serviteur le souhaitait. Et donc il voit les fruits de son invocation tout de suite, immédiatement. La deuxième manière, on avait expliqué que l'invocation, le fruit de son invocation, ou l'exaucement de son invocation, lui est réservé yawm al-qiyamah. Et on avait expliqué qu'effectivement c'était un moment très important pour le serviteur, car effectivement il va vivre à ce moment-là un besoin extrême concernant les hasanat, les bonnes actions et l'expiation de ses péchés. Et donc l'invocation à ce moment-là est très très importante. On avait expliqué cet élément-là. La troisième manière d'exaucer les invocations, on avait expliqué qu'Allah subhanahu wa ta'ala enlevait un mal qui aurait pu arriver. Et donc concernant le décret divin suspendu, donc la yaruddu al-qada ila ad-du'a, donc seule l'invocation peut lever ou repousser le décret divin qui annonçait une mauvaise chose pour le serviteur. On avait expliqué également que celui qui a accès ou qui a compris les secrets de l'invocation, les portes de la miséricorde lui sont ouvertes. Celui qui a compris les secrets de l'invocation, les portes de la miséricorde lui sont ouvertes. Comprendre les secrets de l'invocation, c'est tout simplement le fait d'éviter les obstacles. Comme l'a expliqué Sofiane al-Thawri, lorsqu'on lui a posé la question autour de l'invocation, yani, et comment l'invocation pourrait être exaucée, il a tout simplement répondu, yani, tarkul ma'asi ad-du'a. Tarkul ma'asi ad-du'a. Donc parmi les obstacles, le fait d'éviter les péchés. Et donc il a tout simplement expliqué que l'invocation, c'était tout simplement le fait d'éviter les péchés. Donc effectivement, yani, le serviteur qui a compris que il y a des obstacles à l'invocation, à l'exaucement, et qu'il évite ces obstacles, à ce moment-là, les portes de la miséricorde lui sont ouvertes. Les portes de la miséricorde lui sont ouvertes. Car celui qui a compris ça en réalité, il a accès au secret et au bénéfice de l'invocation. Ensuite, on avait cité quelques récits. On avait commencé par le récit de Sa'd ibn Abi Waqas, radiallahu anhu, concernant le fait que le prophète sallam avait invoqué pour lui, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala, istajib li Sa'd. Allahumma istajib li Sa'd. Donc il avait fait l'invocation pour Sa'd ibn Abi Waqas en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala pour l'exaucement. Et donc on avait cité un récit là-dessus. Je vous renvoie à la dernière intervention. On avait également expliqué le récit du fameux savant, du tabi'i, Ibn al-Munkadir, donc, qui a vécu un moment extraordinaire avec un homme pieux qui avait justement l'exaucement de ses invocations systématiquement. Concernant le récit sur Sa'd ibn Abi Waqas, ce récit est relaté dans un hadith rapporté par le Bukhari. Donc, ceux qui souhaitent revenir sur le récit de Saad ibn Waqas, ibn Abi Waqas, faut tout simplement retourner sur Sahih al-Bukhari. Et pour le récit de Ibn al-Munkadir, ce récit est relaté dans Al-Hilyatul Awliya de Abi Nu'aym. Donc, le récit est rapporté dans ce livre. Et il nous restait un dernier récit avant d'aborder les obstacles, parce qu'en fin de compte, nous, ce qui nous intéresse également, c'est de savoir les obstacles, quels sont les obstacles, et il y en a plusieurs. Et avant de démarrer sur les obstacles, parce qu'effectivement, on peut penser que l'exaucement des invocations est réservé qu'aux pieux prédécesseurs d'une certaine époque. On pourrait penser ça. On pourrait penser que les compagnons avaient l'exaucement de leurs invocations à l'image de Saad ibn Abi Waqqas. On pourrait penser également que les tabi'in également étaient concernés, comme le hadith dans lequel le prophète sallam dit « La meilleure génération est ma génération, celle qui suivra et celle qui suivra. » Donc on pourrait penser que y en a ceux qui ont le privilège d'avoir l'exaucement de leurs invocations, on pourrait penser que c'est uniquement les trois premières générations qu'a cité le prophète sallam comme étant les meilleures générations. Mais en fin de compte, de nos jours, subhanallah, et même parmi nous, Allahu a'lam, mais de nos jours, des personnes ont des karamat, donc des bénédictions. Il y a l'exaucement de leurs invocations. Ils demandent et ils sont exaucés. Et ici, subhanallah, il y a un récit qui m'avait quand même un petit peu, subhanallah, marqué. C'était le récit d'un savant qui est encore actuellement vivant, qui s'appelle Abdelrachid As-Soufi. Abdelrachid As-Soufi, donc, qui est d'origine somalienne, et qui est l'un des plus grands récitateurs du Coran à travers le monde. Il est très très connu, donc d'origine somalienne. Donc il est savant dans les qira'at al-'ashr, donc dans les récitations, dans les différentes variantes. Et donc il est très 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 connu, masha'Allah. Donc pour ceux qui le connaissent et qui s'intéressent un petit peu aux récitateurs, alhamdoulilah, c'est un nom qu'on connaît tous. Et donc Abdelrachid As-Soufi, donc pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à faire des recherches autour de cette personne, ce savant extraordinaire, masha'Allah. Donc, il raconte tout simplement un récit extraordinaire. Et c'est lui-même qui le raconte. Et la vidéo, subhanallah, dans laquelle il raconte, elle est présente sur YouTube. En langue arabe, bien sûr, malheureusement, la langue arabe, ceux qui n'ont pas accès à un trésor extraordinaire, je fais une petite parenthèse quand même, la langue arabe, subhanallah, vous permet d'avoir un accès extraordinaire au niveau de la science religieuse. Des choses qui sont traduites en français, en langue française, ils sont assez pauvres. Il y a très peu d'ouvrages par rapport à la quantité d'ouvrages en langue arabe. Il y a très peu d'ouvrages traduits en français. Si on devait faire la proportion entre les ouvrages en langue arabe et les ouvrages en langue française, la proportion est très très petite. Alors, Alain, peut-être que j'ai pas la connaissance de tous les ouvrages en langue arabe, mais Yannick, quand on voit les bibliothèques en langue arabe et les bibliothèques en langue française, Yannick, on comprend que c'est 10% de ce qu'on peut avoir dans les bibliothèques. Yannick, peut-être que 5 à 10% des livres sont traduits en langue française. Donc il reste une grande masse de livres en langue arabe qui n'est pas encore traduite. Et malheureusement, celui qui n'a pas accès à la langue arabe n'a pas accès à une grande partie de la science religieuse. Et donc Abdelrachid As-Soufi, pour revenir à son histoire, donc il nous raconte que quand il était plus jeune, donc étudiant, donc dans l'apprentissage du Coran, donc il apprenait le Coran à la grande université Al-Azhar en Égypte, au Caire. Et donc, alors qu'il terminait une session d'apprentissage, donc il validait une récitation dans une version, parce qu'il avait récité le Coran, il avait appris le Coran, et donc il commençait d'autres versions, d'autres manières de lire le Coran, d'autres riwayat. Et donc, il s'apprêtait à valider ça. Et donc, il a validé ces différentes riwayat. Et lorsqu'il a validé ces différentes riwayat en Égypte, il a eu la chance d'avoir comme récompense un chèque en argent. Donc ses enseignants lui ont remis un chèque, une bonne somme d'argent, mashallah, en guise de récompense par rapport à la récitation qu'il a validée. Et donc qu'est-ce qu'il a fait, subhanallah, donc comme toute personne savante et pieuse, mashallah, ajib, il décide de faire quoi avec cet argent? Non pas de partir au snack, ni de partir au restaurant, mais tout simplement d'acheter énormément de bouquins. Donc toute sa bourse, il l'a déboursée dans les bouquins. Subhanallah. Et donc, Ajib, il s'est retrouvé avec plein de cartons de bouquins. On voit la ferveur qu'ont les gens de science dans l'achat des bouquins, subhanallah. À titre d'information, c'est que les bouquins, subhanallah, ne remplaceront jamais la lecture sur un téléphone. Le bouquin, quand vous l'ouvrez le bouquin, vous avez une relation avec le papier, vous regardez, vous retrouvez les pages, etc. Il y a une relation avec le papier et le bouquin qui est particulière pour celui qui est dans la lecture. Et donc ici, Abdelrachid, le savant, donc il avait acheté énormément de bouquins, et donc il s'apprêtait à repartir chez lui en Somalie, donc pour rendre visite à sa famille. Et donc, arrivé à l'aéroport, donc en Égypte, donc il arrive à l'aéroport avec tous ses bouquins. Le taxi lui pose tous ses cartons, etc. à l'aéroport. Et donc, il arrive au guichet, donc il explique que c'était la première fois qu'il prenait l'avion. Donc il explique que c'était la première fois qu'il prenait l'avion, il n'avait jamais pris l'avion auparavant. Et donc il arrive devant le guichet, nous on est habitués, hein, Ryanair, etc. C'est une formalité, il nous appelle presque par notre prénom. Donc concrètement, donc il arrive pour la première fois, et donc il pose ses cartons, et donc il avait déboursé tout son argent dans les bouquins. Et donc la personne lui dit, écoute, très bien, le billet il est valable, donc toi et ton billet vous pouvez passer, par contre ça c'est quoi? C'est les bouquins. Il dit, non, c'est les bouquins à qui? C'est mes bouquins. Ok, donc il va falloir que tu payes le surplus. Donc le surplus, c'était une grosse somme d'argent. Vous imaginez, quand on voit que déjà à l'époque, déjà maintenant en 2021, c'est 20 euros, je pense, le kilo pour Ryanair. À l'époque, c'était déjà pas démocratique de prendre l'avion. C'était pas monnaie courante, donc ça devait être encore plus cher. Et donc la personne des guichets lui annonce un prix exorbitant. Et donc il dit, subhanallah, j'étais pas au courant. Il était vraiment étonné. Étonné, même angoissé. J'étais pas au courant, subhanallah. Comment ça, yani, je dois payer une somme aussi importante pour mes bouquins? C'est mes bouquins, subhanallah. C'est mes chouyours qui m'ont donné de l'argent, etc. Donc, il explique. Ils m'ont donné de l'argent, comme j'ai récité, alhamdoulilah, je suis un talib al-ilm. Et donc, alhamdoulilah, maintenant, j'ai acheté ces bouquins. Et là, vous m'expliquez que je ne vais pas partir avec mes bouquins. Mes bouquins vont rester. Et donc, la personne au guichet lui explique. Donc, il raconte, hein, avec un petit peu d'humour. Donc, la personne au guichet lui explique, écoute, c'est soit toi et ton billet, vous passez. Soit c'est tes bouquins et ton billet, et toi tu restes. Donc en gros, il n'y a pas d'autre solution, quoi. Donc, subhanallah, il est déboussolé. Déboussolé, déboussolé. Comment ça, subhanallah? Je risque de ne pas partir avec mes bouquins. Et donc, on sait très bien que déjà à l'époque, et peut-être même dans nos pays d'origine, quand tu laisses un bagage comme ça en vadrouille, en électron libre, bah, tu risques de le perdre. Donc lui avait dépensé pratiquement sa fortune sur ça. Donc c'était sa fortune qu'il laissait sur place. Et donc il a commencé à réfléchir un petit peu et il avait du mal à trouver de solution. J'ai pas l'argent, je vais faire quoi? Je vais mendier, je vais demander aux gens comme ça de l'argent, c'est pas possible. Et donc il va dans la mosquée de l'aéroport, parce que c'est l'avantage dans les pays musulmans, c'est que on a pour l'instant, alhamdoulilah, jusqu'à présent des mosquées dans les aéroports. Et donc il va prier. Donc il va s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il va prier, il prie rak'atayn. Et il explique que c'était pratiquement en début de soirée. Et donc il commence à prier. Et il prie, mais de manière assez, comment dire, avec une certaine ferveur. Et il répète tout le temps le même verset. Et le verset, c'est le suivant dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Amma yujibu al-muttarra idha da'ah wa yakshifu as-su' » Le verset dans la traduction, c'est n'est-ce pas lui, en parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala, le verset, n'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé lorsqu'il l'invoque et lui enlève le mal? Et donc il répète ce verset dans sa prière. Et ça, effectivement, c'est quelque chose d'autorisé en islam. Yani de prier avec un verset et de le répéter, comme le faisait le prophète sallam également. In tu'adhibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal fa innaka antal antal 'azizul hakim. Barakallahu fika si Mustafa. Fa innaka antal 'azizul hakim. Le fameux récit dans lequel le prophète sallam a prié pendant toute une nuit avec un seul verset en parlant des enfants d'Israël lorsqu'ils ont accusé Issa Yani d'avoir propagé la Trinité. Ils avaient accusé Issa que c'est toi, Issa, qui nous a dit d'adorer trois divinités. Et donc, il s'est dédouané à Issa en disant Subhanallah, yani. Et à ce moment-là, yani, le verset est venu yani, en référence à cette histoire-là. Yani, si tu les châties, alors ce sont tes serviteurs. Donc, la parole du prophète, si tu les châties, alors ce sont tes serviteurs. Et si tu leur fais un grand pardon, alors tu es le grand, le puissant et le sage. Et donc ici, Abdul Rachid al-Sufi, au même titre que le prophète sallam, dans la sunna, donc il prie avec ce verset-là. Amma yujibu al-muntarra wa yakshifu as-su. Et donc ici, il commence à répéter le verset, il le répète, il le répète. Et à un moment donné, il s'arrête. Il s'arrête, et il y en a un derrière qui lui dit, Ya cher, zid zidna shwiya. Wa zidna al Quelqu'un lui dit, écoute, vas-y, continue ta récitation. Tu nous as vraiment apaisé avec ta récitation. Il lui dit, donc c'est un jeune, hein, c'est un jeune à ce moment-là, c'est un ancien qui lui dit ça. Par respect, il dit, ben, bismillah, je vais continuer ma récitation. Donc il reprend, il récite, il récite, il récite, et donc il récite des grandes parties du Coran. Et à la fin, la personne qui était derrière, qui lui avait dit, écoute, récite s'il te plaît, reprends un peu ta lecture, il lui dit, viens avec moi. Donc, subhanallah, il dit, naam, tfaddal. Il dit, d'où tu viens? Donc, ils ont commencé à discuter. D'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais? Etc. Donc, il lui explique sa situation. Il lui dit, écoute, donc voilà, je suis étudiant, alhamdoulilah. Donc, voilà, je repars en Somalie voir ma famille. Et donc, là, alhamdoulilah, j'ai fini une khatma de Qur'an. Et donc, voilà, j'ai des bouquins, etc. Donc, j'attends mon avion. Et donc, il dit, bah, viens, 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 on va s'installer en haut. Donc, il dit, on va s'installer en haut, subhanallah, comment ça? Donc, il lui dit, viens, on va aller dans la bibliothèque en haut. Donc, il l'accompagne. Donc il s'aperçoit que, subhanallah, c'est une personne qui a de l'importance ici dans cet aéroport. Et donc il s'installe sur des divans, etc. Donc il lui ramène à manger, etc. Et lui dit, explique-moi ta vie un petit peu et si tu as des soucis, explique-les-moi un petit peu. Dis-moi un petit peu ce qui se passe, comment tu t'es retrouvé là, après, etc. Ce verset en particulier, etc. Et donc il lui explique. Il dit, voilà, donc comme je t'ai expliqué, je pars en Somalie, etc. Donc pour ma famille. Et là j'ai un petit problème. J'ai un petit problème, à ce moment-là, il ne sait pas qui c'est encore cette personne. J'ai un petit problème, c'est que mes livres, j'en achetais beaucoup. J'avais reçu une récompense d'argent, etc. Et donc là, donc il lui raconte l'histoire. Et là, j'ai une personne, quand je suis arrivé au guichet, c'est la première fois que je prends l'avion. La personne me dit, non, tu passes pas avec tes bouquins, c'est soit toi, soit les bouquins. Je kiffe. Dans cet aéroport? Il dit, non, non. Il dit, viens avec moi. Il dit, c'est moi le responsable de l'aéroport, subhanallah. Je suis le directeur de l'aéroport. La ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala lui a ramené le directeur à côté de lui. Allah, pour lui faire écouter sa récitation et l'asbab qu'on connaît derrière. Il est venu, viens, 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 viens. Et donc il raconte que le guichet, celui qui était le hôte au guichet, la personne qui gérait le guichet, elle a vu le responsable arriver avec le récitateur. Et son visage a changé de couleur. Il était stressé. Comment ça, il vient? Parce que, subhanallah, ce que je n'ai pas dit, c'est que le récitateur, avant de partir, quand il a laissé la personne au guichet, il lui dit, t'inquiète pas, moi et mes bouquins, on va partir, inshallah ta'ala. Il avait fait ce défi-là, avant de partir. Et là, il le voit revenir avec le directeur. Il dit, je l'ai vu en train de trembloter la personne au guichet. Et donc il lui dit, écoute, est-ce que c'est toi qui lui a interdit de passer avec ses bouquins? Il lui dit, ben, naam, ouais, si, si, ben, c'est l'arrêt. Non, 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 non. Lui et ses bouquins, ils vont passer. Donc il a répété la phrase que le frère l'avait défié, subhanallah, avant de partir. Donc, subhanallah, yani, là, on voit ici, subhanallah, que l'exaucement des invocations, en fait, quand elle n'est pas liée à une époque, yani, ou à une zone géographique, mais elle est liée, subhanallah, à la piété de la personne. Elle est liée à la piété de la personne. Et bien sûr, ces personnes-là, ces pieux, ils ont accès au secret de l'invocation. Ils se sont éloignés des obstacles liés à l'exaucement. Et donc ici, on va rentrer dans le vif du sujet, inshallah ta'ala, concernant les obstacles liés à l'exaucement de l'invocation. Le premier obstacle qu'on peut citer, et c'est le plus important en réalité, c'est le plus important avec d'autres, mais c'est quand même la clé de l'entrée dans l'invocation, c'est la sincérité dans l'invocation. La sincérité dans l'invocation. Bien souvent, malheureusement, quand on invoque, quand on est dans nos invocations, yani, peut-être qu'on ne comprend même pas ce qu'on dit comme invocation. C'est possible. La personne va dire des invocations. Elle ne comprend pas ses invocations. Alors, soit parce que elle est pas arabophone, donc dans ce cas-là, elle prononce l'invocation en arabe, mais elle la comprend pas. Et ici, c'est compliqué. Que ta langue dise des choses, mais que ton cœur ne comprenne pas. Et comment voulons-nous qu'Allah exauce nos invocations si nous-mêmes, nous ne savons même pas ce que nous disons? Alors, donc, la première des choses, c'est de comprendre ce qu'on dit. De comprendre ce qu'on dit pour être sincère dans ce qu'on demande. Et avant d'entrer dans ce sujet-là en particulier, lorsqu'on parle de sincérité, c'est également le fait d'invoquer uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. Uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. En réalité, j'ai pas commencé par ce point-là parce qu'en fin de compte, à notre époque et dans notre secteur ici, à nous en France, dans notre mosquée, dans notre, alhamdoulilah, notre secteur à nous, on n'est pas trop concerné par le fait d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Je parle pour les musulmans. Après, pour les autres religions, ça, bien sûr, on constate, on voit ce qui se passe. Mais de manière générale, pour nous, en tant que musulmans, on n'est pas touché par le shirk. On n'a pas de personnes qui allons adorer des tombes, etc., ici, en tout cas, en France. Malheureusement, dans nos pays d'origine, c'est possible de voir ça, malheureusement. De voir des personnes qui vont invoquer autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, effectivement, bien sûr que, déjà, l'invocation n'est pas exaucée, mais encore pire que ça, la personne commet le plus grand péché. Le péché que si ce péché de la personne ne se repent pas, elle n'est pas pardonnée. Et donc elle entrera en enfer. Donc ici, ce point-là, je n'allais pas trop m'attarder là-dessus parce qu'en fin de compte, alhamdoulilah, nous ne sommes pas, et qu'Allah Ta'ala nous préserve, pas concernés ici en tout cas, dans notre localité et à notre époque ici par cette question-là. Par contre, la chose par laquelle on est concerné, c'est la sincérité dans ce qu'on dit, dans nos invocations. Est-ce qu'on comprend ce qu'on dit dans nos invocations? Ça, c'est un point important. Et même quand on comprend des fois, subhanallah, bah, des fois on va tellement par la routine répéter l'invocation que la langue travaille, mais le cœur ne suit plus du tout. Le cœur ne sait même plus ce qu'on raconte. À l'image de l'invocation sur les ablutions, par exemple, si on prend un exemple des invocations, le fameux hadith dans lequel le prophète sallam nous dit Ma minkum min ahadin. يتوضأ فيصبر أو فيبلغ ويصبر أو يبلغ الوضوء ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية ويدخل من أيها شاء. Le fameux hadith sur les ablutions qui nous dit l'un d'entre vous lorsqu'il fait ses ablutions, et qu'il parfait ses ablutions, et qu'il dit, j'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée autre que Allah, donc il n'y a que Allah exclusivement qui peut être adoré, et j'atteste que Muhammad sallam est son serviteur et son messager, à ce moment-là, après avoir fait les ablutions, le serviteur a comme récompense le fait d'entrer au paradis par l'une des 8 portes du paradis. Les 8 portes s'ouvrent à lui. Et il entre par celle qu'il souhaite. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que nous, quand on fait nos ablutions et qu'on formule l'invocation, est-ce qu'on a systématiquement ça à l'esprit, subhanallah? Est-ce qu'on a systématiquement ça à l'esprit? Ou est-ce que juste la langue, et khalas, on est parti, c'est terminé. Pour celui qui l'a dit l'invocation, parce que des fois, il va dire l'invocation en la pensant. Mais peut-être que énormément de monde peut-être ne la disent même pas. Ou peut-être certains la disent, mais ne connaissent même pas le mérite qu'il y a derrière. Et donc le fait de comprendre ce qu'on dit et savoir le mérite qu'il y a derrière, bah, subhanallah, ça aide à la concentration, à la sincérité dans l'invocation. Et ici, subhanallah, il y a quelque chose qui devrait nous frapper un petit peu. C'est qu'en fin de compte, l'invocation, c'est une relation, c'est un dialogue entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dialogues avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et on devrait en fait compte méditer un petit peu là-dessus, parce que tu médites avec qui? Yani tu invoques qui en réalité? Tu vas t'adresser à qui à ce moment-là? Quand on réfléchit un petit peu, subhanallah, on se dit, bah, si je devais m'adresser à quelqu'un, faire une demande particulière, à quelqu'un de très haut placé dans la hiérarchie, au travail par exemple, ou à l'école, ou dans une administration, ben, je vais prendre soin de moi déjà premièrement, être présentable, travailler mon texte que je vais lui dire, bien formuler les phrases. Quand je vais arriver devant lui, peut-être que je vais être concentré, mais vraiment à 100%, avec vraiment la précision dans les mots. La langue, elle va pas fourcher parce que je l'aurais répété tellement de fois que la langue ne va pas fourcher. Et donc, en fin de compte, on fait ça pour un simple serviteur. Mais que dire du Créateur? Du Créateur, de celui qui détient tout et qui est capable de tout. De celui qui détient les richesses et que ces richesses ne diminuent en rien, quand bien même il aurait donné à tout le monde ce que chacun souhaitait. Et ici, un hadith extraordinaire, hadith Qudsi, dans lequel, donc hadith Qudsi, la parole divine, donc à travers le hadith, hadith rapporté par Muslim, dans l'authentique de Muslim, dans lequel Allah subhanahu dit, à travers la parole du prophète sallam, Ya ibadi, inna awwalakum, law afwan, law anna awwalakum, wa akhirakum, wa insakum wa jinnakum, قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر أو إذا أدخل البحر. Ici le hadith, il nous montre en fin de compte la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Annahu huwa al-ghani. Tu demandes en fin de compte à celui qui détient tout. Tu demandes à celui qui détient les richesses, les vraies richesses. Le hadith, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, Allah s'adresse au serviteur en disant, ô serviteur, si le premier de toute la création, le premier jusqu'au dernier, tous les êtres humains, donc en comptant les êtres humains, et les djinns également, donc il englobe le début de la création jusqu'au dernier, concernant les êtres humains et également le monde des djinns. Si tous étaient rassemblés sur un seul endroit et ils se levaient tous, donc imaginez-vous, déjà juste, subhanallah, notre intellectuel, il est déjà dépassé là. Là, on sait plus de quoi, de combien de personnes, c'est incalculable. Du début de la création jusqu'à la fin. Ins ou djinn, les deux. Déjà juste ins, c'est compliqué. Alors djinn, subhanallah, étaient réunis en un seul endroit et qu'ils se lèvent tous à ce même endroit et invoquent en même temps, tous Allah subhanahu wa ta'ala. Ils invoquent, mais des choses les plus grandes, chacun. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, alors je donnerai à chacun d'entre eux ce qu'il m'a demandé. Je donnerai à chacun d'entre eux ce qu'il m'a demandé, subhanallah. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est ce qui suit par la suite. C'est qu'il dit, et ceci ne diminue en rien de mes richesses. Et il donne une image en disant, telle une aiguille que on entre dans l'océan, lorsqu'on ressort cette aiguille, l'océan a-t-il diminué de sa quantité? Abadan, abadan. Faire rentrer une aiguille dans l'océan et ressortir cette aiguille, cette opération-là fait-elle diminuer la quantité d'eau dans l'océan? Impossible. Au même titre que, yani, la création dans son entièreté, si elle demandait à Allah subhanahu wa ta'ala en même temps, ça ne diminuerait rien de ses richesses. Donc quand on sait que Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-ghani, c'est le détenteur de toutes les richesses, yani, on devrait, yani, perfectionner nos invocations. Perfectionner nos invocations. Celui qui ne comprend pas l'arabe, il se lance dans l'apprentissage de l'arabe pour essayer de comprendre ses invocations. Parce que ces invocations, il les dit également dans sa prière en arabe. Bien sûr, yani, celui qui est dans l'incapacité, le converti mathalan, celui qui débute dans la langue arabe, qui ne maîtrise pas, qu'il dit ses invocations dans une langue étrangère, machi mushkil. Bien sûr. Mais bien sûr, faut qu'il évolue. Et ici, yani, le fameux hadith dans lequel le prophète nous dit « Talabul ilmu, ou talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslima » l'apprentissage de la religion est une obligation pour le musulman. En fin de compte, l'obligation de l'apprentissage, on ne demande pas d'apprendre Sin Hizb dans ce hadith-là. L'obligation, c'est dans ces choses-là, dans la vocation, dans la pratique, ce qui va t'aider à pratiquer ta religion. Et donc ici, le fait de parfaire ses invocations, en comprenant au moins ce qu'on raconte, ben c'est le minimum, subhanallah. Le minimum, si tu souhaites voir tes invocations exaucées, comprends ce que tu racontes. Parce que tu ne t'adresses pas à un simple serviteur, tu t'adresses à celui qui détient toutes les richesses. Donc ça, c'est concernant donc la sincérité dans les invocations. Ensuite, également, donc il y a un hadith qui nous attire un petit peu l'attention sur le fait d'être concentré également. D'être concentré, même si on comprend nos invocations, c'est possible qu'à force de répéter nos invocations, on soit touché par un moment pas d'insouciance, mais d'inattention. D'inattention ou de rafla. Donc, à force de répéter, d'être dans un mécanisme, il répète, il répète, il répète, l'invocation devient tellement mécanique que sa langue travaille, mais son cœur est détaché. Mais il comprend en réalité, il comprend rien normalement s'il se concentre. Ici, le hadith, et je vais m'arrêter là-dessus sur ce hadith-là, le hadith rapporté par Tirmidhi, affaibli par certains savants, authentifié, rendu bon par Ibn al-Mulaqin, donc l'authentificateur de hadith, Muhadith, qui nous dit dans le hadith suivant, Ud'u Allah wa antum muqinun, yani muqinun bil ijaba. Wa antum muqinun bil ijaba. Wa alamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Le hadith il nous dit la chose suivante, invoquez Allah subhanahu wa ta'ala tout en étant convaincu de l'exaucement. Donc le hadith, il commence comme ça. Donc, tout en étant convaincu de l'exaucement. Et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'exauce pas l'invocation d'un cœur qui est insouciant et distrait. C'était plutôt le terme que je cherchais, distrait, voilà, qui est distrait. C'est-à-dire que sa langue travaille, mais son cœur, il est ailleurs. Il est occupé par autre chose. Ici, le hadith, il est clair, subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala n'exauce pas l'invocation de celui dont le cœur est insouciant ou distrait, quand bien même il dit la formule en arabe et qu'il la prononce bien, etc. Non, avec le cœur. Donc la sincérité, ça rentre également là-dedans, la sincérité. On va s'arrêter là-dessus, inshallah ta'ala. On poursuivra, inshallah ta'ala, prochainement, inshallah ta'ala. Que Dieu, inshallah, nous donne une longue vie. Fi ta'atillah. Barakallahu fikoum. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhouma. وتفرقنا من بعده تفرقا سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم أصلح أولادنا اللهم أصلح أولادنا اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا الذين صاروا إليك اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار اللهم استجب دعاءنا اللهم استجب دعاءنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم.